France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Inès Bouffartig, Sébastia, Sacha Mattei et Pénélope Lemoguen, réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Élise Leu. C'est le premier volet de notre série consacrée à la reconstruction d'après-guerre, à la manière dont ces projets urbains façonnent durablement les sociétés et les rapports de force. Nous parlerons demain de la Syrie, devenue un immense chantier à ciel ouvert. Mercredi de Tombouctou, cas d'école de la préservation d'un patrimoine détruit. Jeudi Mostar, ville de Bosnie, métamorphosée par la reconstruction et qui laisse une mémoire, elle, toujours en ruine. Aujourd'hui, à Gaza, alors même que les armes ne se sont pas tues, les Palestiniens sont d'ores et déjà dépossédés dans tous les sens du terme.
Tous ceux à qui j'ai parlé aiment l'idée que les États-Unis prennent le contrôle de la bande de Gaza, la développent et créent des milliers d'emplois pour en faire quelque chose de magnifique. Je ne veux pas faire de l'esprit, je ne veux pas faire le malin, mais la Riviera du Moyen-Orient, ce pourrait être quelque chose de vraiment magnifique.
Nous pensons que ça peut être fait en 2 ou 3 ans. Nous avons déjà commencé à enlever des décombres. Ce sera un nouveau Gaza, il y aura de l'espoir, des industries. Il y fera bon vivre et sa population bénéficiera de bonnes opportunités professionnelles.
Make sure that Gaza never poses a threat to Israel.
Nous voulons absolument que Gaza ne soit plus jamais une menace pour Israël. Le président Trump nous permet de franchir un cap dans cette optique. Il est assez visionnaire pour percevoir un futur différent pour ce territoire qui a été le berceau de tant d'actes terroristes, de tant d'attaques et de tant de tribulations.
Dans son dernier livre, Le Proche-Orient, Mémoire du Monde, le politiste Ziad Majed partage en conclusion une réflexion sur les morphologies urbaines dans la région transformées par les guerres successives. Les ruines, ou plutôt la ruine, constituent désormais, écrit-il, une matrice dominante de l'expérience quotidienne. Elle n'est plus le vestige d'un épisode guerrier, mais incarne une condition politique durable, fruit d'une destruction souvent systématique, prolongée et intentionnelle. L'habitat ne se reconstruit pas, il se suspend. À Gaza en particulier, les bombardements israéliens ont réduit les immeubles, les commerces, les hôpitaux, la vie à 60 millions de tonnes de gravats. Mais cette fois, il s'agirait de ne pas laisser les décombres former un paysage figé, alors que la surdité des ruines est atroce pour celles et ceux qui recherchent encore leurs proches ensevelis. Voilà que Donald Trump leur parle projets urbains, résurrection économique et vie renouvelée. La guerre n'est pas finie que déjà des États tiers, des institutions internationales ou des entreprises privées se permettent d'écrire la suite de l'histoire. Le site d'information Yanni recense pas moins de 11 plans publiés pour Gaza et qui, tout sauf un, exclut les Palestiniens de la discussion. D'abord l'anéantissement et ensuite le profit, résume dans The Conversation l'urbaniste Marco Cremaschi, citant Tacite à propos des conquêtes des Romains. Ils font un désert et ils appellent cela la paix. Bonjour Laetitia Bucaille.
Bonjour Julie Gacon.
Merci beaucoup d'être avec nous dans Culture Monde. Vous êtes professeure de sociologie politique à l'INALCO, membre du CESMA, qui est le Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques, et de l'Institut universitaire de France. Vous avez publié « Gaza, quel avenir ?» sous forme de questions, paru en octobre dernier aux éditions Stock dans la collection Essai. Merci d'être avec nous, ainsi que depuis les studios d'ici Bourgogne à Dijon, Raphaël Portella, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Bourgogne-Europe, membre du Centre de recherche et d'études en droit et sciences politiques, le CREDESPO. Vous avez coécrit une analyse critique de 2 plans de reconstruction pour Gaza, le plan Trump et celui de la Ligue arabe, dans un long article paru dans Recherche internationale l'été dernier. Alors avant de parler de reconstruction, avec aussi ce sentiment d'indécence que ça provoque, Laetitia Bucaille, qu'est-ce qui tient encore debout à Gaza, à part les hommes et les femmes qui ont survécu ?
Oui, il reste des morceaux de ville. Hein. Tout n'a pas absolument été détruit, puisqu'on évalue les destructions à peu près 80%. Donc, il reste 20% des bâtis, notamment des logements. Mais Les infrastructures ont été très largement détruites, c'est-à-dire les routes, mais aussi, bien sûr, comme on le sait, les hôpitaux qui ne sont plus en mesure de soigner les Gazaouis, les écoles, les universités qui ont été réduites absolument à néant. D'ailleurs, Israël a, depuis le cessez-feu, encore détruit une école de l'UNRWA ces derniers jours. Donc il y a beaucoup de choses du point de vue qui rendent la vie extrêmement difficile pour les Gazaouis, puisqu'ils se trouvent pour la plupart sans abri, sous des tentes, exposés aux intempéries. L'hiver a été particulièrement pluvieux et rude à Gaza cet hiver. Il y a aussi, bien sûr, des gens qui continuent d'être tués par les bombardements. Hein. Il y a eu 591 Palestiniens tués, plus de...
Depuis le début du cessez-le-feu du 10 octobre.
Depuis le 10 octobre, à peu près 1600 blessés. Il y a tous ces disparus, on pense qu'il y a à peu près 8500 disparus, qui sont soit dans des geôles israéliennes, mais sans qu'on le sache, soit sous les décombres.
Et on en parlera d'ailleurs tout à l'heure dans le focus de tous ces Palestiniens et Palestiniennes qui recherchent sous les décombres des proches disparus, ces décombres qu'il s'agirait aujourd'hui d'extraire, de réduire en cendres, à poussière, de les retirer, alors que de ces immeubles, il ne reste plus rien que des pylônes et des dalles, plus rien des murs en revanche. Et quand les bombardements s'espacent et que les Palestiniens ont trouvé refuge sous des tentes, et bien les vents prennent le relais.
Des personnes dormaient dans leurs tentes lorsqu'un mur de 20 mètres s'est effondré sur elles. La défense civile est intervenue. La situation est très difficile pour les personnes déplacées sur la côte.
Nous et nos voisins, nous souffrons. Nos habits, nos matelas sont trempés et le sol aussi. C'est la quatrième tempête que nous subissons. Nous n'avons rien, pas d'abri, pas de moyens, rien du tout.
Les tentes et les bâches se sont effondrées sous l'effet de la violente tempête. J'ai emmené mes enfants de ma tente à celle de mon voisin, mais en vain. Nos tentes et nos matelas sont trempés.
Des Gazaouis face aux tempêtes, rencontrés par une équipe de France 24 le 14 janvier dernier, enfin en tout cas relayés par une équipe de France 24, plus que rencontrés, l'accès à Gaza est toujours impossible pour les journalistes étrangers. Quand les Palestiniens racontent Laetitia Bucaille, leur famille décimée, souvent ils commencent par cette phrase « Notre maison a été détruite ». Et en Palestine, cette seule phrase évoque un drame absolu parce que les familles vivent ensemble, dans une même maison, dans plusieurs pièces ou étages, mais ensemble, les maisons détruites, les hôpitaux détruits ou endommagés à 84%, les usines, comment ces destructions agissent aussi à long terme à rendre ce territoire non viable?
Oui, il y a un énorme problème, bien sûr, des 60 millions de tonnes de gravats qui sont là, qui sont contaminés par les armes, par les mines. Hein. D'ailleurs, les personnes, notamment les enfants, s'exposent en allant chercher quelquefois de la nourriture ou des affaires dans les gravats à être blessé ou à être tué par des munitions non explosées. Et puis, il y a tout ce problème aussi qui est aggravé par les destructions, par la contamination des munitions, qui est l'état du sol, du sous-sol et de la phréatique et de l'eau. Un des gros problèmes à Gaza, il y avait déjà une tension sur l'eau avant la guerre, c'est l'accès à l'eau. Alors l'accès à l'eau s'est un petit peu amélioré depuis la fin de la guerre, mais il reste problématique et l'eau reste de mauvaise qualité, elle expose à la diphtérie, à la diarrhée, la population gazaoui.
Les terres agricoles aussi sont polluées par les destructions et les rejets des eaux usées. Moins de 2% sont encore cultivables, ces terres agricoles.
Et largement inaccessibles parce qu'elles se trouvent plutôt du côté où Israël continue d'occuper la moitié de la bande de Gaza. Les terres agricoles se trouvent plutôt de ce côté-là.
L'armée israélienne qui occupe aujourd'hui la moitié du territoire avec l'appui des milices tribales. Donc la question qui devrait occuper toutes les discussions est celle de l'aide humanitaire aujourd'hui qu'Israël continue à bloquer régulièrement, même si des chaînes israéliennes comme I24 News se félicitent de savoir que des camions livrent des confiseries, des sodas aussi aux Palestiniens à l'approche du Ramadan. Plusieurs États appellent Israël à cesser ce qui reste une entrave permanente. Mais un autre sujet a déjà pris le pas dans certains cercles, le sujet de la reconstruction, y compris d'ailleurs des cercles palestiniens. Raphaël Porteia, l'Union des municipalités de Gaza a proposé son propre son propre plan de reconstruction de la bande, le plan Phoenix. On n'en sait pas grand-chose, je crois. Néanmoins, qui représente aujourd'hui ces municipalités de Gaza et est-ce qu'on a une idée de leurs propositions ?
Oui, on a quelques éléments qui sont un petit peu disparates et qui nécessitent donc de faire quelques recoupements. Le document complet ferait 200 pages à peu près. Il a été publié assez tôt, hein, dès la fin de l'année 2024, début de l'année 2025. Il a fait l'objet de quelques amendements. Il s'agit d'experts, d'ordre urbanistique, des architectes, des médecins, des responsables politiques locaux qui ont proposé, à la différence de tous les autres plans, de partir de l'existant, c'est-à-dire de ne pas omettre que les gravats, les 61 000 tonnes auxquelles on faisait millions de tonnes auxquelles on faisait allusion à l'instant, peuvent être recyclés pour une grande partie d'entre eux, à condition bien évidemment de pouvoir en assurer le désamiantage, le déminage et tout ce qui va être très très compliqué. Mais il part de cette idée-là. Et il part de cette idée-là parce que les Palestiniens, malheureusement, ont l'habitude de recycler les gravats et les débris qui ont été causés par les guerres précédentes depuis 2008. Il y en a eu un certain nombre, notamment celle de 2014. Et dès qu'il est possible, ces Palestiniens se sont mis à l'œuvre. J'en ai discuté ici, là, avec quelques personnes qui ont eu l'occasion d'intervenir dans le secteur médical à Gaza il y a quelques temps. Et dans certains endroits, il y a déjà eu des éléments de cet ordre-là. Dans les endroits qui ne sont pas dans la ligne jaune, hein, qui est celle que Israël a annexée pour l'instant. Et donc, ce plan vise à faire des Palestiniens les acteurs de leur reconstruction, des partant de leurs besoins, de leurs désirs, et permettant d'avoir une vision qui soit une vision multiple, on va dire, mais pas simplement quelque chose qui est imposé de l'extérieur. C'est en cela que, incontestablement, il se distingue de tous les autres plans. Vous faisiez allusion aux 11 plans. Il y en a pas loin de 18-19 en réalité, si on y ajoute bien évidemment les plans dont on entend parler beaucoup, beaucoup et beaucoup trop peut-être de mon point de vue.
Le plan Trump, bien sûr, qui a pris toute la place, on va en parler, même si vous avez accepté par ailleurs, Raphaël Portella, d'en discuter aujourd'hui, ne serait-ce que pour toutes les questions politiques qu'il charrie, bien que se présentant comme apolitique. Quelle place donne aux Palestiniens un autre plan qui circule, celui de l'Égypte, validé par la Ligue arabe et par l'ONU ? Raphaël Portella, puisque vous lui avez consacré un long article dans Recherche internationale, est-ce que l'Égypte a pensé ce plan comme un contre-projet à celui de Donald Trump ?
Incontestablement. Cet article a été rédigé avec mon collègue palestinien Baher Al-Sakka, qui est professeur de sociologie à l'université de Birzeit. Et nous avions comme idée sur point d'essayer de faire une comparaison entre ce que Trump avait proposé la toute première fois en 2020, puis ensuite en 2025, puis là tout récemment, de montrer en quoi ce plan, on va dire le plan arabe de mars 2025, pouvait être un moyen alternatif, mais qui n'est pas complètement parfait. Il peut se résumer en trois axes. Une reconstruction par étapes, il y aurait trois étapes de reconstruction, sans déplacement de la population. Et je rappelle que le plan Trump initial, qu'on a appelé la Riviera, visait à expulser, à déporter la population palestinienne de Gaza. Ici, c'est pas du tout le cas. Le deuxième point, c'est le retour de l'autorité palestinienne ou, en tous les cas, quelque chose qui s'apparenterait à l'autorité palestinienne pour gouverner. C'est la dimension politique, en remplacement du Hamas. Et puis, enfin, la formation de policiers pour assurer la sécurité. Il a été budgété à hauteur de 53 milliards de dollars, ce qui est à peu près les chiffres que l'Union européenne et d'autres instances des Nations unies avaient donnés. Et avait proposé trois étapes dans la reconstruction. Bien sûr, faire quelque chose avec les gravats, justement, et avec les débris, puis ensuite reconstruire de manière à prendre en compte les besoins de la population palestinienne, avec des logements, avec un certain nombre d'éléments supplémentaires. Mais dans une perspective où quand même les Palestiniens, s'ils étaient un peu acteurs, ils étaient quand même en deuxième ou troisième position, pas comme celui du plan Phoenix dont on parlait à l'instant.
عملت مصر كذلك بالتعاون مع الأشقاء في فلسطين.
L'Égypte a travaillé en coordination avec nos frères palestiniens pour former un comité administratif indépendant, professionnel et technocratique qui sera chargé de gouverner la bande de Gaza. Grâce à l'expérience de ses membres, ce comité sera responsable du processus de reconstruction et assurera un intérim pour gérer les affaires courantes du territoire avant le retour de l'autorité palestinienne.
Le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi qui présente son plan de reconstruction pour Gaza et sur le site d'information Yahani, le chercheur et militant palestinien Majed Abou Salama, qui est né dans le camp de Jabalia à Gaza, parle de ce plan égyptien comme d'un plan qui prétend collaborer avec les Palestiniens, mais qui ne ferait que représenter Gaza comme une toile vierge, dépouillée de toute identité. Laetitia Bucaille, quoi qu'il en soit, à part ce plan phénix présenté par l'Union des municipalités de Gaza, tous les autres sont de toute façon non pas imposés par des donateurs, mais prenant en compte par anticipation ce que les donateurs voudront bien concevoir ou concéder.
C'est-à-dire que chacun a ses préoccupations. Et en fait, le plan égyptien, qui sans doute inclurait quand même beaucoup plus les Palestiniens qu'un plan américano-israélien, la principale préoccupation des Égyptiens, c'est que les Gazaouis et les Palestiniens restent à Gaza et ne viennent surtout pas en Égypte. Donc cette idée de reconstruire sans déplacer les Palestiniens, ça correspond aussi à vraiment à une préoccupation tout à fait centrale pour les Égyptiens et pour l'ensemble des pays arabes. Parce que l'ensemble des pays arabes, même s'ils ne sont pas directement concernés, ils n'ont pas envie d'un nouvel afflux de Palestiniens qui se rapprochent de leur État. Ils considèrent, alors ils insistent bien sûr sur le droit des Palestiniens à vivre chez eux, mais c'est aussi un calcul très égoïste de ne pas vouloir être menacé par les Palestiniens, pardon.
Alors que Donald Trump, lui, a pour idée dans son plan de reconstruction, ne voit pas comment on pourrait faire autrement que d'envoyer les Palestiniens en Égypte et en Jordanie. C'est toujours d'actualité.
Alors, en tout cas, c'était son idée initiale qu'il avait affirmée avec force, hein, en présentant ça aussi comme un soulagement pour les Palestiniens qui pourraient enfin quitter ce territoire de désolation. Mais il s'est quand même heurté au refus très très fort des Égyptiens et de la Jordanie. Et le maréchal Sissi, malgré les difficultés économiques financières de l'Égypte, a vraiment opposé un niet très ferme à cette perspective. Et l'Égypte accueille très peu de Palestiniens sur son territoire.
Alors s'il faut actualiser en quelque sorte ce plan de Donald Trump qu'il a en tête et dont il a donné plusieurs détails le 26 janvier dernier, l'application de ce plan repose sur une nouvelle gouvernance sur trois niveaux. Est-ce qu'on peut essayer avec vous, Laetitia Bucaille, de démêler qui fait quoi ou qui ferait quoi, pas seulement dans la tête de Donald Trump, mais d'ores et déjà, puisque les choses sont réellement en train de se mettre en place progressivement. Trump a trouvé des volontaires, en tout cas.
Oui, mais ça reste flou sur qui fait quoi. Effectivement, c'est une architecture très compliquée, parce que c'est une architecture à trois étages, où il y a le comité de la paix, qui est cette espèce de conseil de sécurité bis que Donald Trump a voulu inventer, et pour lequel d'ailleurs il voudrait non seulement qu'il s'occupe de Gaza, mais aussi des conflits dans le monde. Donc il y a cette espèce de cour des grands qu'il préside, où il aura un pouvoir prépondérant avec un droit de veto pour lui-même exclusivement. Il y a un étage dont on peut imaginer qu'il serait davantage à la manœuvre, qui est un comité exécutif, qui, là, inclut des pays, des représentants de pays comme la Turquie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, enfin, des pays arabes, mais aussi des Américains et des proches de Donald Trump, savoir Steve Witkoff, tous ceux qui ont l'habitude de gérer le dossier palestinien, le dossier du Moyen-Orient, et qui serait chargé de faire l'interface avec ce comité technocratique composé de Palestiniens, de 15 membres, dont on peut supposer qu'eux seraient chargés de s'adresser à la population, peut-être de recueillir leurs plaintes et leurs griefs, mais qui n'auraient pas de pouvoir de décision, en tout cas tel que ça a été dessiné. Il faut savoir que ce comité technocratique palestinien, composé de 15 membres, qui s'est réuni en Égypte, au Caire, n'a toujours pas été autorisé par Israël à revenir dans la bande de Gaza.
Et même l'ancien vice-ministre de l'autorité palestinienne, Ali Shat, c'est lui qui dirige d'ores et déjà, je crois qu'on peut parler au présent, ce comité palestinien composé de membres de l'autorité palestinienne, puisque il est toujours question de n'accorder de légitimité qu'au Fatah, qui dirigeait l'autorité palestinienne. Donc cet ancien vice-ministre, Ali Shat, il vient en Cisjordanie, il a dû passer par la Jordanie pour se rendre en Égypte le 16 janvier, puisque les Palestiniens des territoires occupés n'ont pas le droit d'emprunter l'aéroport de Tel Aviv, sauf les Palestiniens de Jérusalem-Est. Il a été retenu 6 heures à la frontière avec l'Égypte le 16 janvier par l'armée israélienne, alors qu'il se rendait à cette première réunion du comité palestinien. Est-ce à dire, Raphaël Portella, qu'on est dans le cadre d'une double tutelle? Est-ce que vous pensez qu'on est plutôt sous une tutelle, ce qui se dessine, plutôt une tutelle internationale, ou une double tutelle avec Israël qui continuerait à occuper une partie du territoire, à imposer ses règles, y compris celle de faire passer ou pas à la frontière tous ceux qui sont censés participer aux discussions?
Bien sûr, on est complètement dans cette configuration. C'est un schéma, comme vient de le dire Laetitia, à trois niveaux sur le papier. Sur le terrain, Israël conserve le pouvoir de contrôler, de filtrer, de surveiller toute sortie et toute entrée des Palestiniens, puisque Rafah a été réouvert depuis quelques jours. J'ai, avec mes correspondants, discuté de ce sujet-là. Il y a à peu près une vingtaine de Palestiniens qui ont pu rentrer sous des contrôles très, très, très importants depuis Rafah. Très, très peu peuvent sortir, sauf quelques-uns qui ont vraiment des soucis médicaux. Donc Israël est en sous-main. On oublie de dire aussi que ce qui surveille un petit peu le cessez-le-feu aujourd'hui, c'est un commandement militaire américain qui est placé à Kiryat Gat, au sud de la Cisjordanie, en Israël, bien évidemment, qui donne le tempo, en quelque sorte, de ce que va être bientôt la manière dont Gaza va être gérée. Ce sont des militaires américains. Il y a quelques, apparemment, d'autres militaires qui prennent les décisions. Tout ça est très, très clairement organisé. C'est aussi cette instance qui doit surveiller le cessez-le-feu. Et on l'a dit, le cessez-le-feu a été violé à plus de 1000 reprises par Israël depuis octobre dernier. Et donc, on voit bien que cette tutelle est en fait une tutelle qui s'organise en fonction des intérêts, des volontés d'Israël de continuer à pressurer au maximum Gaza pour ne laisser qu'une toute petite possibilité. Est-ce que vous voulez être encore dominé et vous resterez aux conditions que le plan fixera? Ou est-ce que, alors, peut-être, il vous faudra partir, mais sans aucune possibilité de revenir? C'est un dilemme qui est juste une horreur, de mon point de vue.
Une souveraineté, donc une double tutelle internationale avec un modèle, c'est Raphaël Portella, vous qui l'écrivez dans vos travaux, un projet des États-Unis qui reproduisent une forme de modèle d'instance internationale qui exerce sa souveraineté sur des forces politiques locales, comme ils l'ont fait en Bosnie, au Kosovo, notamment avec cette impression que les États-Unis calquent un modèle préexistant, d'autant que Tony Blair, qui était déjà membre de l'instance chargée de superviser la transition politique au Kosovo, a un temps été pressenti pour administrer Gaza, finalement. C'est un ancien ministre des Affaires étrangères bulgare qui aura ce rôle-là, d'après les projets états-uniens. Laetitia Bucaille, jusqu'où Israël prendra, enfin, quel est le rôle d'Israël dans ce projet états-unien, puisque Netanyahou déclare ne pas vouloir gouverner lui-même Gaza. Dans les faits, vous le rappeliez, la moitié du territoire est sous occupation de l'armée. Il y a aussi des militants colonialistes israéliens qui régulièrement très récemment ont pénétré dans la bande de Gaza. Alors, quelle place se donne Israël et quelle place les États-Unis veulent bien lui accorder?
Oui, c'est une bonne question, parce que, en fait, ce n'est pas écrit. Tout ça n'est pas écrit. Et plus l'architecture de gouvernance de Gaza avec ce triple étage est floue, imprécise et peu propice à fonctionner, parce qu'il y a énormément d'acteurs qui ont des visions différentes, des intérêts différents, et ça ne va pas manquer de susciter des frictions entre eux, entre les Américains, les Qataris, les Israéliens, les Turcs, etc. Donc ça va être très très compliqué à gérer. Alors, moins ça fonctionne bien, plus Israël aura de latitude. Et effectivement, hein, Israël continue de contrôler les entrées et les sorties du territoire, mais continue de contrôler le ciel, la côte, le réseau d'eau, le réseau d'électricité de Gaza. Donc Israël est encore extrêmement puissant et contrôle. Et on peut penser aussi que il explique très précisément aux Américains ce qu'il faut faire, ne pas faire en termes de contrôle, de surveillance des Palestiniens, etc. Donc Israël craint en même temps, hein, cette internationalisation, cette tutelle internationale sur Gaza, parce que à terme, ça pourrait lui échapper, hein, ça pourrait être un espèce de mandat onusien qui fait que Israël n'est plus responsable de Gaza et donc ne contrôle plus, n'assure plus par ses propres moyens sa sécurité. Donc il y a cette tension qui existe effectivement.
Les contrôles se poursuivent, y compris sur tout ce qui pourrait ressembler à un matériau de reconstruction, puisque ça fait depuis 2007 déjà que le blocus empêche l'entrée dans la bande de tout objet qui serait à double emploi potentiel selon Israël, donc tout matériau aussi qui pourrait être exploité pour construire des armes, mais le ciment, les barres d'acier entrent dans cette catégorie, une très longue liste qu'Israël a établie et dont font partie ces matériaux qui seraient a priori, enfin qui sont nécessaires pour quand on parle de reconstruction. D'ailleurs, à ce sujet, Raphaël Portella, est-ce que l'État israélien a profité jusqu'à présent de toutes les phases de reconstruction de Gaza, que ce soit en 2008-2009, en 2012, 2014, 2021 et jusqu'aujourd'hui? Est-ce qu'Israël a fait l'effort d'alléger les contrôles et les taxes, surtout pour les matériaux qui entraient dans Gaza?
Ce n'est pas du tout le cas, non. C'est au contraire un moyen d'assurer un vrai contrôle sur la vie quotidienne des Palestiniens de Gaza. D'ailleurs, un expert parlait du robinet à ciment qui était le moyen de détenir un petit peu la vie dans cette zone, en faisant en sorte que les quotas de ciment puissent entrer selon ce que Israël a décidé, que les matériaux à double usage, vous en parliez, de la même manière. Et tout ça, ce sont des instances qui sont contrôlées, surveillées de manière très 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 proche et très très fine à l'entrée de Gaza. On est là dans une véritable technique, technologie, ingénierie de reconstruction de la domination israélienne par l'intermédiaire de ce plan Trump. Certains parlent de résurgence du colonialisme ou du mandat du début du XXe siècle. On est dans une forme de manière un peu plus sophistiquée, aseptisée, pour la rendre plus acceptable par la communauté internationale, mais de reproduire sur le long terme la domination des Palestiniens qui, comme je le disais tout à l'heure, auront un dilemme, rester aux conditions fixées ou partir sans avoir aucune possibilité de revenir. On voit qu'en plus, c'est un élément qui dépolitise complètement la question palestinienne, qui la rend uniquement discutable sur des questions humanitaires, sur une logique immobilière, sur une logique d'aide immédiate, mais qui perd de vue quand même le droit à l'autodétermination du peuple palestinien, qu'il s'agisse de Gaza. On pourrait aussi prendre l'exemple, bien sûr, de l'autre partie de la Cisjordanie. Donc ces éléments-là sont complètement dilué, complètement oublié ou passé en tous les cas en second ou en troisième, ce qui fait que, en effet, le plan Trump est aujourd'hui celui qui est le plus médiatisé. Pour compléter ce que disait Laetitia, le Conseil de paix va se réunir à Washington après-demain, le 19, pour sa première ensemble de décisions normalement officialiser ce qui composera la force internationale de stabilité, qui est un élément supplémentaire de ce plan. Et ce plan, je voudrais quand même le dire aussi, préfigure probablement un ordre international à venir, car si ce laboratoire gazaoui fonctionne, si cette manière de procéder, qui est une manière totalement unilatérale, et la force fonctionne, pourquoi est-ce que ça ne serait pas reproductible ailleurs? Et à ce titre-là, le plan russe-ukrainien façonné par les États-Unis d'il y a quelques mois en arrière, dans son 27e point, c'était un plan en 28 points, faisait allusion à un conseil de la paix. Donc ça veut bien dire qu'il y a là, ici, une sorte de fil rouge d'un ordre international à venir qui est loin, loin, loin de ce que avaient proposé les Nations Unies et de ce que le droit international a mis en place, avec les difficultés qu'on connaît, mais qui était quand même une manière multilatérale de faire du droit. Là, on est dans une simple vision de la force et qui prime sur tous les autres tenants et aboutissants.
Donc, Laetitia Bucaï, il y a une dimension ultra-politique de ce plan. On ne cesse de dire qu'il est dépolitisé parce que seul compte les intérêts financiers. Là, la dimension politique, elle est en ce que ce plan renforce une logique, une nouvelle phase toujours plus coloniale de la façon dont Gaza est considérée par Israël, par les États-Unis et par le reste du monde, pour aller un petit peu vite, et vous me pardonnerez ce manque de nuance dans la façon de le dire. Néanmoins, si on essaie de comprendre ce qui se passe dans la tête de ces acteurs privés qui se positionnent déjà pour investir dans la reconstruction de Gaza, quel serait leur intérêt à eux à investir dans un territoire aussi anéanti qu'est celui de Gaza aujourd'hui, un territoire sous blocus dont vous nous rappeliez que les sols sont pollués, les infrastructures détruites, un territoire remis en cause jusque dans ses frontières? Comment Donald Trump réussit-il à trouver autant de volontaires pour engager ce plan?
C'est-à-dire que, de toute façon, si c'est pour la reconstruction au profit des Gazaouis, je pense que peu leur importe que le sol soit pollué ou non. Hein. L'idée, c'est quand même aussi de profiter
aux investisseurs, vous voulez dire.
Oui, et aux promoteurs et à tous ceux qui imaginent cette nouvelle ville. L'intérêt des entreprises de construction ou des États, hein, comme l'Égypte. L'Égypte a un secteur de construction extrêmement dynamique. Le pouvoir de Sisi est engagé dans la construction de cette nouvelle capitale à quelques dizaines de kilomètres du Caire. Donc, il y a beaucoup d'entreprises de construction qui sont présentes, qui sont intéressées, bien sûr, par le profit. Et il y a une opportunité de faire de l'argent avec des États du Golfe qui sont censés financer la reconstruction. Donc, il y a des perspectives d'affaires. Cela dit, comme vous l'avez souligné, un des gros problèmes à la reconstruction de Gaza, et c'est le cas depuis plusieurs décennies, c'est la question de l'entrée des matériaux dans Gaza, puisque Israël est extrêmement sourcilleux pour que ces matériaux à double usage n'entrent pas. Donc, de toute façon, hein, il y a déjà des entreprises égyptiennes qui avaient entrepris des travaux de reconstruction après la guerre de 2014 et des logements pour des sans-abri à Gaza. La reconstruction a été extrêmement lente parce que tout est compliqué, tout doit être négocié et on doit faire avec les contraintes israéliennes. Mais ce qui est en train de se mettre en place, alors il y a cette logique immobilière dont il n'est pas sûr qu'elle aille à son terme étant donné les difficultés qui se présentent. Mais on pourra toujours accuser tel ou tel acteur d'avoir bloqué le processus. Mais en tout cas, je ne sais pas s'il va vraiment y avoir des grands immeubles tels que dessinés, tels qu'imaginés par Trump qui vont s'élever à Gaza. Je pense que tout ça va être extrêmement lent, extrêmement heurté. En revanche, ce qu'il est certain qui va s'installer, c'est un espèce de nouveau modèle, effectivement, comme Raphaël Portela le mentionnait, une espèce de modèle militaro-humanitaire avec une surveillance étroite, une technosurveillance de tous les habitants et une restriction dans leur mobilité très très forte, articulée à un nouveau système humanitaire, puisqu'il s'agit de remplacer l'ancien système humanitaire. Les agences des Nations Unies sont désignées comme coupables, comme inefficaces, comme complices du Hamas. Les ONG également, hein. On a vu que Israël n'a pas renouvelé l'autorisation hein, de grandes ONG qui avaient l'habitude de gérer Gaza et la Cisjordanie ne pourront plus hein, opérer dans ce territoire. On va faire venir de nouvelles ONG qui seront probablement des ONG évangéliques américaines qui seront elles parfaitement dociles, parfaitement en phase avec les impératifs de sécurité israéliens et permettra de mettre en place ce système de surveillance couplé à cet assistanat sous condition.
Et ce qui permettra aussi à Israël de dire « Regardez, on s'occupe des Palestiniens, une aide humanitaire leur est proposée, des associations s'en occupent et par ailleurs, on autorise certains Gazaouis à rentrer. » C'est le cas de cette dame qui a fait partie de 12 Gazaouis en exil autorisés à repasser le checkpoint de Rafah très récemment, début février. Mais elle raconte ses difficultés à Middle East High.
Quand nous sommes arrivés depuis le côté égyptien, nous avons traversé la frontière pour entrer à Gaza et nous avons été accueillis par des représentants de l'ambassade palestinienne, Dieu les garde. Nous avons été accueillis avec grand respect. Nous avons fait toutes les démarches administratives nécessaires pour nous enregistrer, puis nous avons appris que l'armée israélienne allait arriver et qu'elle allait conduire notre bus ailleurs. Lorsqu'ils sont arrivés, ils nous ont menottés et bandé les yeux pour nous emmener dans une salle d'interrogatoire et nous poser toutes sortes de questions. Pourquoi voulez-vous entrer à Gaza? Qu'est-ce que vous comptez y faire? Tout portait sur Gaza. C'était des questions très politiques. Ils nous ont menacés de manière incroyable, en nous disant qu'on ne serait jamais autorisé à rentrer à Gaza, que Gaza était à eux. Ils nous demandaient pourquoi nous ne prenions pas nos enfants pour quitter Gaza. Ils veulent tous nous déporter. Les Israéliens ne veulent pas que nous rentrions. Ils veulent Gaza, mais ils ne veulent pas son peuple. Ils n'ont aucune considération humaine pour nous.
Alors peut-être Israël ne veut-il pas que des Gazaouis rentrent, néanmoins il en a laissé l'État, a laissé passer l'armée, a laissé passer quelques Gazaouis. Laetitia Bucaï, comment l'expliquer, puisque depuis le départ on parle de ce plan Trump comme d'un plan qui officialiserait la déportation en fait des Palestiniens, que ce serait la première fois qu'un plan l'inscrirait formellement dans un texte et que ce ne serait plus seulement les mots des responsables politiques israéliens tenant du nationalisme religieux, Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich, et on entend quand même aujourd'hui que certains Gazaouis rentrent.
Oui, alors il y aurait donc 233 Palestiniens qui seraient rentrés et 142 patients blessés qui nécessitaient des soins d'urgence. Donc on est vraiment sur une porte tout à fait entrouverte. Ben, ça s'explique parce que les États-Unis ont fait pression sur Israël. Ça faisait partie de l'accord, en fait, des différentes étapes. De ce plan dit de paix imaginé par Trump, annoncé par Trump, avec cette première phase, la restitution des otages, des dépouilles des otages, le retour de certains prisonniers, un cessez-le-feu, etc., le retour de l'aide humanitaire. Et puis dans la deuxième phase, eh bien, il était prévu que le point de passage de Rafah rouvre, le point de passage donc entre l'Égypte et la bande de Gaza. Alors, il a été ouvert avec retard, et puis, la immense majorité des Palestiniens continuent d'être bloqués dans un sens ou dans un autre. Il y a 18 000 patients qui attendent d'être évacués pour aller à l'hôpital.
Mais qui ne seront, oui, dans l'autre sens, parce que si certains Gazaouis, par ailleurs, rentrent pour être soignés, c'est pour le moins surprenant.
Ils rentrent pas pour être soignés, ils rentrent parce qu'ils veulent rentrer à Gaza, sur leur terre. Alors peut-être qu'ils ont été soignés, ou alors ils se trouvaient à l'extérieur de Gaza au moment de l'offensive. Bon, les situations peuvent être très diverses.
Vous, Laetitia Bucaï, vous avez pu lire ce matin qu'un nouveau plan était proposé, qui concerne Gaza, proposé, je crois, par le Qatar, si je ne m'abuse.
Non, alors par les Émirats Arabes Unis. D'accord. En fait, c'est un projet qui prévoit donc de financer la première, je cite, la première communauté planifiée de Gaza. Et donc, ça serait en fait un peu, j'imagine, un test, puisque cette première communauté serait érigée à Rafah, ou à côté de Rafah, donc dans la ville qui jouxte la plus au sud de la bande de Gaza. Et donc, les Palestiniens seraient autorisés à s'installer et on leur reconstruirait des logements. Ils auraient accès à un certain nombre de services de base, santé, eau, etc. Et éducation, d'ailleurs, avec l'idée d'imposer un curriculum émirati aux Palestiniens, ce qui serait totalement inédit. Mais à condition qu'ils acceptent donc de se soumettre à ces conditions de sécurité, qui seraient une collecte systématique de leurs données biométriques et de tous leurs déplacements.
Leurs déplacements, tous, voilà, seraient ultra surveillés.
Voilà, c'est ça. Ce serait une espèce de techno-surveillance en échange donc de cet accès à une sorte de vie décente.
Alors d'un côté, il y a ce que devrait être Gaza à l'avenir, évoqué lors de sommets diplomatiques, de négociations en coulisses, asséné lors de déclarations tapageuses et vendu à travers des clips publicitaires. Et puis, il y a ce qu'est Gaza aujourd'hui, un territoire anéanti où la relative accalmie du cessez-le-feu pousse les familles aujourd'hui à arpenter les ruines et soulever les gravats, presque pierre par pierre, dans l'espoir de retrouver leurs proches disparus. 11 000 personnes selon l'ONU. On en parle après ces deux rappeurs gazaouis, Saint Levant et Mac Abdoul.
سلم لي عريحة وسلم عالديرة يا طير الطير الأرض الكريمة يخدوش اللي فينا سلم لي عريحة وسلم عالديرة يا طير الطير الشط والرمال بداية حياتي أحلق يا وطن فرحة ومآسي أحلق وطن الغالي فلسطين حبيبة تنادي
Saint-Levant et Mac Abdoul, deux chanteurs gazaouis. Saint-Levant a vécu à Gaza, il n'en est pas originaire, mais tous les deux chantent ce chant d'Era 2024. Cette chanson évoque l'exil. D'Era, ça veut dire le vieux quartier. C'est aussi le nom d'un hôtel détruit par les bombardements à Gaza. On commence ce matin notre série sur les reconstructions d'après-guerre. Aujourd'hui, à Gaza, où les plans présentés par Donald Trump ou les institutions internationales dépossèdent totalement les Palestiniens. Pour ces derniers, d'ailleurs, cela reste des mots totalement creux qu'ils n'entendent sans doute même pas. Dans les décombres se trouvent tant de leurs proches toujours disparus.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Ma vie avant la guerre, elle était belle. Je me réveillais avec ma famille, on prenait le petit déjeuner à la maison, je les saluais et je partais au travail. C'était une vie modeste et belle. Maintenant, tout a changé. Je vais leur rendre visite et prier pour eux, alors qu'ils sont sous les décombres. C'est comme si j'étais enterré avec eux. Mon âme demeure avec eux.
Ibrahim a perdu quatre petites filles, Lana, 12 ans, Layane, 11 ans, Mana, 6 ans, Anada, 6 mois, et leur mère, sa femme à lui de 33 ans. Seul Ibrahim et son fils Mohamed ont survécu au bombardement par l'armée israélienne du camp d'Al-Maghazi dans le centre de la bande de Gaza en décembre 2023. Le journaliste palestinien Ahmed Abou Ajoua les a suivis dans leur recherche des corps, images et récits dont vous avez fait un film ensemble. Solène Grippon, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Solène Grippon. Vous êtes journaliste indépendante avec Ahmed Abou Adjoua et aussi Iyad Alastal, qu'on a déjà reçu dans Culture Monde. Vous avez co-réalisé ce documentaire « Gaza à la recherche des disparus » diffusé sur Arte. Merci d'être avec nous aussi en leur nom. Combien de temps a dû attendre Ibrahim pour retrouver les corps de ses filles et de sa femme, comme tous ceux qui à Gaza ont perdu un proche dans un bombardement ?
Ibrahim a dû attendre 2 ans.
Alors, on vous entend très mal, pardon. Si vous voulez bien vous rapprocher un petit peu de votre téléphone. Merci.
Est-ce que vous m'entendez?
Oui, très bien, merci.
Ok, pardon. Il a dû attendre 2 ans, en fait, avant de pouvoir extraire les corps de sous les décombres, parce qu'il a essayé pendant 2 ans de le faire avec ses moyens à lui, puisque la défense civile ne pouvait pas le faire avec un bulldozer, en fait. Et malheureusement, les corps étaient sous trop de décombres pour qu'ils puissent le faire sans matériel de la défense civile.
Le cessez-le-feu actuel permet de davantage procéder à ces recherches par la défense civile de Gaza ?
Oui, alors quand même dans des proportions très minimes, hein, vu le travail déjà titanesque que représentent les ruines dans tout Gaza. Et en fait, ils peuvent le faire davantage quand même, parce que comme il y a beaucoup moins de bombardements, c'est beaucoup moins dangereux d'intervenir sur les lieux. Et puis, ils sont aussi aidés par le CICR, qui en fait les aide financièrement notamment, parce que le carburant actuellement, là, c'est l'essence, c'est à 30 euros le litre. Donc c'était aussi un des gros problèmes pour pouvoir utiliser le matériel lourd de chantier. Et puis l'autre problème, c'est qu'ils en ont très très peu. En fait, ils en ont quelques-uns dans la bande de Gaza, très très vieux. Et donc c'est extrêmement laborieux pour essayer de retrouver ce qui reste des corps, en fait. Parce qu'après 2 ans, il reste malheureusement plus que des os.
La plupart des excavatrices de la défense civile ont été détruites dans les bombardements et pour celles qui restent, en effet, il manque d'essence. Il n'y a pas non plus à Gaza de laboratoire médico-légal, pas d'analyse ADN, donc ces os dont vous nous dites que c'est tout ce qui reste, en fait, tout ce qu'on retrouve sous les décombres. Comment est-ce qu'on se convainc ensuite les familles se convainquent? Enfin, est-ce que c'est ça que vous avez pu observer, qu'on finit par se convaincre que cet os, ce fémur, cette natte, cette tresse, une grande tresse brune qui sans doute appartenait à une petite fille, sont ceux de sa propre famille?
Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la défense civile nous dit très bien, d'ailleurs, c'est qu'en fait, retrouver quelque chose, même un infime bout d'os, où on n'est pas certain, évidemment, à 200% que c'est celui de son proche, ça permet quand même de soulager les familles qui, pour citer leurs mots, hein, sont humiliées même après la mort, de ne pas pouvoir honorer leurs proches dans la mort. Et donc même ça permet quand même de commencer en fait son travail de deuil. Voilà, ils le font avec des moyens, c'est-à-dire que on va essayer de reconnaître quelqu'un par les vêtements qu'il portait, en fait ce qui reste après la décomposition, c'est-à-dire la dentition, les cheveux, les vêtements qu'il portait, la taille des os pour savoir à peu près si c'est un enfant, un adulte, une femme. Voilà, et en effet, alors là où c'est un petit peu moins compliqué pour les gens qui sont sous les décombres, c'est que les familles en général savent que les survivants savaient, par exemple, c'est le cas d'Ibrahim, ils savaient très bien le nombre de membres de sa famille qui étaient dans cette maison, donc ils avaient leurs âges. Donc en fait, ils aident énormément aussi la défense civile, c'est pour ça qu'ils le font ensemble, notamment parce que de toute manière, quand on attend 2 ans, évidemment qu'on va être là le jour où enfin la défense civile arrive. Mais aussi, ils aident la défense civile à savoir combien de corps rechercher, les âges, et puis à essayer de les identifier un peu par ce qu'on peut, ce qui reste.
Ce n'est pas le cas de celles et ceux qui sont morts sous les balles, par exemple, des snipers. Le documentaire s'ouvre devant une morgue où un homme vient reconnaître le corps de son frère et un de ceux qui l'accompagne dit « Si on n'avait pas été là, le jour où son frère a été tué par un sniper, il aurait été porté disparu ou mangé par les chiens. » Il se trouve que cet homme est mort sous les yeux de témoins, que son visage est à peu près resté intact, mais pour toutes celles et ceux qui ne sont pas reconnaissables, qu'en font les hôpitaux?
En fait, c'est exactement ça. Il y a vraiment, comme souvent les gens, c'est des zones où il y a des snipers, etc. Donc le fait d'aller récupérer la personne décédée ou blessée, c'est un grand risque en fait, que les personnes prennent. Donc parfois, ils le font et parfois, ils n'arrivent simplement pas à le faire. Et auquel cas, comme en plus, cette zone n'est pas sûre avant un très long moment, et ben, c'est comme ça que les gens ne retrouvent pas leur corps, les corps du tout, quoi. Et donc, ce qu'ils font dans les morgues, ils prennent ce qu'ils peuvent de photos pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils pourraient identifier, comment les familles pourraient identifier ce qui reste. Donc, c'est avec, toujours pareil, la dentition, une particularité, si vous avez un pied déformé ou que sais-je. Et ensuite, ce qu'ils font dans les hôpitaux, c'est très, très dur pour les familles, parce qu'ils affichent les photos des corps, notamment donc ceux soit retrouvés dans la bande de Gaza, soit ceux qui ont été rendus selon l'accord par Israël. Et les familles doivent regarder très très attentivement des photos de cadavres pendant des heures pour essayer d'identifier un proche. En fait, tout repose sur les familles.
Voilà. Est-ce que vous pouvez à nouveau vous rapprocher un petit peu de votre téléphone, Solène Gripon? C'est vrai que l'accord de cessez-le-feu prévoyait aussi le retour des cadavres détenus par l'armée israélienne, mais il ne donne pas souvent d'informations. Et pour tous ceux et celles qui cherchent des informations, on suit par exemple dans votre documentaire cette femme, Majida Abou Salah Hussein, dont le plus jeune fils Ahmed a disparu quand il avait 19 ans et demi, comme elle dit, puisque elle est sa mère. Il a disparu un jour d'avril 2024 alors qu'il marchait vers le nord de la bande de Gaza pour retrouver son frère et sa sœur. Elle, on la suit arpentant la plage, le vent ralentit sa marche, elle paraît avoir très froid et elle prend rendez-vous avec l'association Al-Mezan qui recherche les disparus. Peut-être pour conclure, Solène Gripon, avec quelle méthode et quels moyens les associations palestiniennes réussissent à travailler?
Bah là encore, c'est très très compliqué parce qu'en fait, depuis Gaza, si on pense que son proche est en Israël, notamment dans les prisons, on est là encore entravé en fait dans son travail. Donc les ONG palestiniennes travaillent très souvent en collaboration avec des avocats israéliens ou des ONG israéliennes pour en fait que les familles puissent faire un mandat, mandater un avocat israélien pour déjà simplement commencer les pouvoir commencer les démarches. Et l'autre très gros problème, c'est que les autorités israéliennes ne donnent pas du tout la liste des noms des prisonniers qu'ils ont. Donc là, en décembre 2025, il y avait 1287 prisonniers, mais dont on ignore complètement l'identité. Et ce qui fait qu'en réalité, alors les cas sont ouverts, la Croix-Rouge aussi note les cas, mais on ne peut pas matcher, entre guillemets, avec des noms qui seraient sur des listes. Et donc c'est arrivé que après qu'ils aient fait leur demande, les autorités israéliennes disent non, on n'a pas ce nom. Et puis finalement, quelques mois plus tard, ils sont libérés en fait. Et donc ils étaient en réalité dans les prisons israéliennes.
Merci beaucoup Solène Gripon. Le documentaire que vous avez réalisé avec Ahmed Abou Adjoua et Iyad Alastal est disponible sur le site d'Arte. Il s'appelle Gaza, à la recherche des disparus, et on met le lien sur la page de Culture Monde. Merci d'avoir été avec nous, et j'ajoute que Al Jazeera hier publiait une information selon laquelle Israël a aussi utilisé des armes qui génèrent une chaleur telle que les corps ciblés s'en trouvent comme évaporés, ce qui rend impossible les recherches de leurs proches, et on estime à 3000 le nombre de Palestiniens qui auraient disparu dans ces conditions-là. Laetitia Bucaille, vous avez aussi travaillé sur la recherche des disparus en ce moment. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose à ce que disait Solène Gripon?
D'abord, le comportement d'Israël à l'égard des prisonniers ou de personnes qui ont été tuées et dont les corps ne sont pas rendus, puisque Israël pratique aussi le fait de ne pas restituer les corps ou de le restituer avec beaucoup de parcimonie. Voilà, c'est cette politique de la des disparitions forcées, ça a été mis en place par d'autres régimes, la France coloniale en Algérie, l'Argentine. Donc voilà, ça dit quelque chose de la manière dont cette guerre est menée. Et effectivement, par rapport à ces questions de reconstruction, on peut se poser la question de savoir si on prendra la peine de rechercher les disparus dans les décombres, mélangés au gravats. Et puis tous ces Palestiniens aussi qui ont été enterrés à la va-vite par leurs proches, pas dans les cimetières, parce que les cimetières étaient détruits ou inaccessibles, mais sur des bords de route. Voilà, est-ce qu'on prendra la peine de relever ces morts?
On est, on l'a entendu, on doit conclure cette émission aussi sur ces propos, dans une forme de perpétuation d'une logique coloniale, y compris avec ces projets délirants. Mais ont-ils vocation à ne pas être délirants? Est-ce qu'ils ne sont pas non plus presque faits exprès, Raphaël Portella, pour ne pas être réalistes ou réalisables? Finalement, Gaza n'est pas un cas à part, peut-être dans l'histoire de la région, au Proche-Orient, le Liban, dans une moindre mesure, avec peut-être une autre logique, mais a connu quelque chose de tel?
Oui, il y a des éléments de comparaison, des éléments qui renvoient à l'histoire immédiate ou l'histoire un peu plus ancienne. Il y a en tous les cas deux mots qui font le lien avec cette manière d'entourer l'histoire qui se fait là en ce moment. C'est la justice, dont on n'entend jamais parler. Ces plans ont pour vocation d'éloigner toute question de justice, y compris de justice réparatrice, de justice avec des sanctions telles que le droit international est susceptible de pouvoir le faire, ou les règles plutôt nationales. Et puis le deuxième mot, c'est la dignité, que je trouve être aussi complètement évacuer. Le reportage que vous venez de faire avec, avec Solène Gripon le démontre. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de discuter avec Yad Alastal de ce sujet-là il n'y a pas bien longtemps. Et c'est ce mot qui revenait souvent dans sa bouche, la dignité des familles, la dignité des Palestiniens, la dignité aussi des familles israéliennes pour leurs proches. Ce mot-là devrait être le point sur lequel on pourrait se réunir et peut-être avancer vers un avenir.
Merci Raphaël Portella d'avoir été avec nous depuis ici Bourgogne à Dijon et je remercie Dorian Barricot de vous y avoir reçu. Merci Laetitia Bucaille. Gaza, quel avenir ? Votre essai a paru en octobre dernier chez Stock. Merci d'avoir été avec nous.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Ce qui a retenu votre attention ce matin, Catherine, ce sont les suicides de femmes liés aux violences conjugales.
Un phénomène minoré au Royaume-Uni notamment. Une négligence coupable de la police et de la justice, accuse le Guardian. Un scandale national même pour des spécialistes, des associations féministes et des proches de victimes cités par le quotidien de gauche. Pour la deuxième année consécutive, alerte la BBC, le nombre de suicides chez les victimes de violences conjugales dépasse désormais le nombre de féminicides, titre Sky News. Mais c'est un combat pour faire reconnaître la responsabilité des agresseurs, ajoute Channel 4 News. Pas assez d'enquêtes approfondies, les médecins légistes concluent parfois trop rapidement à un simple suicide sans examiner l'environnement global de la victime, les violences conjugales qui ont pu précéder pendant des années, parfois, explique le Guardian. Sans compter le manque d'échanges d'informations entre la police, les travailleurs sociaux et le NHS, le service de santé publique britannique, comme le révèlent les chaînes télévisées Channel 4 News et Sky News. C'est toute une chaîne d'institutions qui a failli dans la protection des victimes de violences conjugales de leur vivant, souligne le Guardian, et qui continue à le faire après leur mort. Le programme de prévention du suicide dans le Kent a révélé qu'entre 2018 et 2024, près d'un tiers de tous les suicides dans cette région du sud-est de l'Angleterre étaient liés à des violences conjugales, indique le Guardian. Si les chiffres du Kent reflètent la situation nationale, cela pourrait signifier que jusqu'à 1500 victimes de violences domestiques se suicident chaque année, soit 15 fois plus que les estimations actuelles.
Et recenser les suicides conjugaux n'est qu'un aspect du combat mené par les familles et les militantes féministes.
Alors qu'au Royaume-Uni, une seule condamnation pour homicide a été prononcée dans une affaire où une femme s'est suicidée suite à des violences conjugales. Aucune poursuite, par exemple, n'a été engagée contre l'ex-conjoint d'Ashley Inskip, une jeune mère de famille qui a mis fin à ses jours à l'âge de 25 ans. C'était en 2021, rapporte Channel 4 News. Elle avait auparavant alerté la police sur les violences commises par son compagnon. Elle avait même obtenu une ordonnance de protection que cet homme a enfreinte au moins 8 fois. Il l'a menacée sans cesse de ne plus pouvoir voir leurs enfants, il l'insultait et l'a même poussé dans des messages au suicide, y compris quand Ashley était soignée en hôpital psychiatrique. 8 jours seulement après sa sortie de l'hôpital, fin juin 2021, Ashley s'est suicidée. Un traumatisme et une injustice toujours vives pour ses parents qui n'ont appris l'ampleur de ces violences qu'après la mort d'Ashley. Il se servait de ses enfants pour la menacer en lui disant « Tu ne les reverras plus jamais, alors pourquoi ne pas rendre service à tout le monde et te tuer ?» J'étais horrifiée, raconte à Channel 4 News Donna Inskip, la mère d'Ashley, qui a mis fin à ses jours en 2021. C'est révoltant de voir quelqu'un envoyer des messages à une personne qui essaie d'aller mieux, de la pousser au suicide. C'est impensable. Aujourd'hui, poursuit Donna, j'essaie de voir mes petits-enfants, mais il m'a volé ça aussi. Cette autre partie de ma fille, se lamente Donna, la voix finalement brisée par des sanglots. Son mari décrit ensuite son sentiment de culpabilité. S'il ose parfois sourire, ne serait-ce que 5 minutes dans une journée. Culpabilité parce que sa fille n'est plus là, mais la colère monte aussi, dit-il à Channel 4 News. Car leur fille, Ashley, a été abandonnée par un système qui était censé la protéger. Toutes les preuves étaient là, elles sont encore là, insistent ses parents, éplorés mais combatifs devant la caméra de Channel 4 News. Si l'enquête sur le suicide d'Ashley parle de violence, de contrôle coercitif, énumère la chaîne télévisée britannique, de mécanismes d'emprise dans la sphère conjugale avec son ex-conjoint qui exploitait la vulnérabilité de la jeune fille, Cet homme n'a jamais été inquiété par la police, souligne Channel 4 News. Et il a toujours la garde de leurs deux enfants. Et ce n'est pas un cas isolé. Au cœur de cette injustice, il n'y a pas qu'un manque de formation au sein de la police ou de la justice, mais une culture de discrimination, d'arrogance et d'indifférence, d'apathie face aux femmes, dénonce l'association Project Resist dans les colonnes du Guardian. C'est pour cela que ces militantes féministes lancent une campagne pour réformer le système judiciaire au Royaume-Uni. Un appel qui trouve un écho dans d'autres pays. En Espagne, le quotidien El Periódico souligne le besoin de renforcer les dispositifs de soutien aux femmes victimes de violences conjugales, de violences machistes, car elles présentent un risque de suicide 3 à 5 fois plus élevé que le reste de la population, selon une étude menée dans 17 pays par le Journal of Affective Disorders. En Italie, le journal Il Riformista insiste parfois, le suicide n'est pas un choix individuel, mais l'aboutissement d'un processus de destruction mené par un conjoint ou un ex-conjoint.
Merci Catherine Dutu.